Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap avec Jean-Marie Soliveres. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Je vous propose une conversation que j'ai eue avec un homme de cheval, sellier artisanal, cavalier, mais aussi adepte de la randonnée à cheval au long cours. Une véritable aventure par les temps qui courent où rien n'est organisé, pour les errances encore moins si elles se réalisent à cheval. Écoutons Jean-Marie Soliveres. Jean-Marie Soliveres, bonjour.
Bonjour Jacques Lavergne.
Et merci de me recevoir dans votre sellerie. Vous êtes chez vous, sellerie artisanale de randonnée.
Oui, tout à fait.
Je reprends ce qu'il y a sur votre site, hein, je n'ai rien inventé.
Sellerie JMS.
La sellerie JMS, oui. Et donc vous êtes sellier et en plus voyageur.
À cheval.
Ouais. À cheval, donc on va venir avant. Vous avez été à moto après, comme vous me disiez en démarrant l'émission et un peu hors micro. Donc vous êtes sellier depuis combien de temps?
Depuis 1985.
Ah oui, ça commence à remonter quand
ça
même.
Ça commence,
hein,
à faire une petite, une petite trotte.
Comment ça vous est venu? C'était un choix?
C'est carrément. C'est les rencontres de la vie, en fait. Hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai commencé par faire de la moto. J'étais mécanicien moto. En fait, j'ai toujours eu des métiers en rapport avec mes passions.
Ça, c'est pas mal, ouais.
Donc j'étais. Et un jour, j'étais dans les Corbières, j'ai longé une route, il y avait des chevaux qui nous ont suivis, qui ont galopé dans le pré à côté de la moto. J'ai dit, tiens, c'est joli, c'est sympa. Et puis voilà, je suis commencé à tomber dans le cheval. Après, par la rencontre des gens, par plein d'anecdotes, de rencontres, en fait. Je suis tombé dans le cuir, en fait, puis le cheval. À partir du moment où je m'intéressais aux chevaux, j'ai un peu regardé ce qui se faisait au niveau de la sellerie, donc à l'époque, ça devait être en 83-84, la sellerie de randonnée, puisqu'il n'y a que ça qui m'intéressait, hein, ce que j'appelle le cheval d'extérieur, c'est-à-dire faire de la randonnée, des voyages, le cheval d'intérieur, tout ce qui est compétition, tout ce qui est dressage, que je respecte, hein, c'est une très belle discipline, mais ça ne m'intéresse absolument pas au niveau du travail, quoi, en fait. Donc je suis monté à Paris au Salon du Cheval en 83 ou 84, voir ce qu'il y avait sur le marché des salles de randonnée. Il n'y avait pas grand-chose, à part des salles western. Il y avait un petit artisan qui débutait à l'époque, qui s'appelait Malibo. Mm-hmm. Et il n'y avait que ça sur le marché. Donc j'ai dit, j'ai peut-être ma chance, moi j'ai des idées, je suis un petit peu à droite de mes mains, donc on va voir.
Enfin, ça ne s'improvise pas quand même, il fallait...
Mais je suis entièrement autodidacte.
Les selles que vous faites sont quand même...
J'ai tout appris sur le tas. Hein. Donc j'ai fait des erreurs, c'est sûr. J'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup réfléchi aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, et puis je suis arrivé petit à petit à développer une gamme de selles, et puis au fil des années, ça a pris, quoi. Donc j'ai eu, on va dire, une petite dizaine d'années de galère, un peu comme tout le monde au début, quand on part de zéro, et puis au fur et à mesure, j'ai eu un employé, deux employés, jusqu'à cinq, et puis voilà.
Comment on trouve des clients quand on ne connaît personne et qu'on n'est pas du milieu?
Eh bien, à l'époque, c'était les salons. Ouais. En fait, c'était les salons et on allait sur les salons, on présentait son matériel. Il fallait savoir se vendre, ce qui n'était pas trop mon cas. Donc, c'est plutôt la qualité du boulot qui a joué en ma faveur. La qualité du boulot, la connaissance... Parce qu'en parallèle, j'ai toujours fait un peu de... J'ai commencé à faire des randonnées à cheval. Puis après, des petits voyages. Donc, c'est un peu l'expérience de tout ça qui a fait que j'ai mis mes modèles au point. Et puis voilà, puis après, ben, c'est les clients qui ont fait le reste, les premiers clients qui ont été contents, qui m'ont apporté d'autres personnes. J'ai beaucoup travaillé à l'époque avec les professionnels de tourisme équestre, qui étaient en recherche aussi de matériel qui tenait la route. Et puis voilà.
Alors vous avez travaillé le cuir, où c'est qu'on trouve le cuir aujourd'hui ?
Aujourd'hui,
ouais.
Ben pareil qu'il y a 40 ans, j'ai les mêmes fournisseurs, j'ai pas changé, je suis toujours fidèle à mes fournisseurs qui au début m'ont quand même bien aidé quand j'avais pas la trésorerie qu'il fallait pour acheter le cuir en fait. Donc j'ai quelques tanneries en Alsace, il y en a d'autres en Belgique. J'ai un gros fournisseur du côté de Nîmes, par là-bas, puis quelques-uns un peu en région parisienne.
C'est un cuir qui vient d'où et un cuir de quoi d'ailleurs?
Alors c'est du cuir de vache,
ouais.
De bovin principalement, enfin on va dire à 100%, hein, c'est du cuir de bovin. Donc décliné en plusieurs épaisseurs, plusieurs façons d'être tanné, parce qu'il y a du cuir souple, il y a du cuir beaucoup plus rigide, mais ça vient tout de... c'est entièrement des cuirs de bovin. Et donc les origines, alors la bonne question, c'est tanné en France, enfin en Europe on va dire, puisqu'il y en a qui viennent de Belgique, mais la vache elle-même, ça doit venir sûrement peut-être d'Argentine ou enfin des gros pays producteurs de viande qu'en fait.
Et les Français ne font pas du tout, produisent pas du tout de cuir? Parce qu'on a quand même des élevages, on a des bêtes, qu'est-ce qu'ils font des pots?
Ouais, mais ça reste quand même minime par rapport à... Mais de toute façon après le cuir, faut savoir que le cuir qui est dédié à la sellerie, c'est quand même une part infime du cuir. Il y a le cuir pour les canapés, il y a le cuir pour l'automobile, tout ça, c'est, en fait, ce sont les deux pays pour le vêtement, mais tout ce qui est cuir automobile et cuir de canapé, en général, c'est pratiquement la plus grosse partie au niveau des tannages et tout ça, qu'en fait. Et ça, à une époque, tout partait en Chine, et ça nous revenait sous forme de canapé.
Oui.
Donc, enfin, une époque, je pense que ça n'a pas dû trop changer.
Peut-être toujours pareil, merci
ouais.
Pour la planète. Alors, on parle de sel. Bon, une sel, c'est du cuir, c'est des arçons aussi.
Voilà.
C'est que les arçons, quoi sont-ils fabriqués?
Donc, alors, ce sont des arçons en polyester, donc ça, c'est vrai ouais. Que c'est pas très top au niveau écolo. Mais l'avantage du polyester, c'est qu'on peut le travailler comme on veut. Et on peut vraiment l'adapter à la morphologie du cheval et à la morphologie du cavalier. Donc au départ, on trouvait encore à l'époque des arçons que vendaient donc des fabricants de polyester. Ça, on arrivait à trouver ce genre d'arçon. On arrive à se procurer aussi aux États-Unis. Et puis petit à petit, j'ai développé ma gamme d'arçons proprement dit. Au début, je les ai fait faire par des artisans qui travaillaient le polyester. Mais je me suis vite aperçu que le problème, en dehors de leur savoir-faire, c'est qu'ils connaissaient pas à quoi était destiné le produit. Donc dès qu'il fallait faire une modification pour l'adapter à des chevaux qui n'étaient pas standard, en fait standard entre guillemets, parce que un cheval, enfin, même s'il y a des morphologies à peu près ressemblantes, chaque cheval ne se ressemble pas, un peu comme nous les humains. Donc dès qu'il a fallu adapter à des morphologies un peu spéciales et au niveau du cheval comme au niveau des humains, donc là ils étaient un petit peu perdus. Donc j'ai fait un stage carrément de travail de polyester et j'ai développé au sein de l'entreprise la fabrication de mes arçons.
Ça veut dire qu'il faut que vous voyiez le cheval avant de faire la selle?
Oui et non, oui on peut, maintenant c'est ce que je fais. Je fais une tournée tous les ans, je vois les chevaux, je prends les mesures et après je fabrique la selle.
Ça fait qu'il faut faire le tour de France parce que vous avez des clients un peu partout.
Ouais, voilà, oui, c'est ce que je fais. Et puis j'aime bien, ça fait partie du boulot et j'aime bien faire ça.
Ouais. Ce qui n'est pas désagréable. Alors la selle, c'est une chose, mais vous faites aussi toute la bagagerie. Les fontes, les sacoches, les porte-manteaux. Mm-hmm.
Tout ce qui va avec la sellerie de randonnée, la sellerie de voyage, oui, tout à fait.
Là aussi, c'est toujours un travail du cuir, peut-être plus facile que
oui,
la selle.
Oui, ça se rapproche plus à la maroquinerie. Et puis là, on est plus dans du standard, en fait. Donc c'est toujours les mêmes produits, les mêmes dimensions. Je pourrais faire sur mesure, mais je m'y refuse parce qu'en général les gens ont une idée que plus c'est grand, plus ils vont pouvoir prendre. Donc ce qui est vrai, mais plus on prend et plus c'est lourd et plus on a des choses inutiles. Donc j'ai développé une gamme de produits qui à mon avis s'adapte bien aux besoins qu'on a en voyage à cheval. Et puis j'en reste là quoi, en fait. Donc ceux qui veulent vraiment se faire qui veulent vraiment des modèles spéciaux, ben je leur dis, ben apprenez à travailler le cuir, c'est D'abord, c'est plaisant, et en plus, bon, ben, c'est agréable l'hiver au coin du feu de se faire ses sacoches ou des fontes, ce que font beaucoup de cavaliers qui partent en voyage, il reste.
Est-ce qu'il y a, peut-être un peu difficile à estimer, mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de cavaliers randonneurs?
Bonne question.
Parce que la sortie, comme on la pratique à la journée, à la demi-journée, bon, ça c'est facile, mais partir plusieurs jours, c'est quand même extrêmement compliqué. On va venir tout à l'heure à vos voyages, ça s'improvise pas.
Alors c'est marrant parce que j'ai discuté de ça il y a une quinzaine de jours, justement en passant chez un ami qui est professionnel de tourisme équestre, et justement il m'a posé la question comment je voyais le tourisme équestre maintenant par rapport à il y a 40 ans. Eh bien, je serais bien capable de répondre à ça. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au niveau des professionnels, il y en a quand même beaucoup moins. Alors avant, les gens, ils partaient, il y a 40 ans, les gens avaient plus besoin d'aventure, enfin d'aventure entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils partaient plus avec la tente, le duvet, en bivouac et tout ça. Maintenant, les gens sont plus demandeurs de confort, d'hôtels 4 étoiles, de mettre les pieds sous la table. En fait, c'est un cli. Avant, on partait avec un professionnel de tourisme équestre pour passer du temps avec les chevaux, avec la nature et tout ça. Maintenant, ce sont plus des clients qui demandent. Ben, il faut tout, c'est tout juste, il faut pas leur seller le cheval. Ils descendent, ils mettent les pieds sous la table. C'est plus des consommateurs, en fait.
Est-ce que ce ne sont
Et
pas les mêmes, mais qui auraient vieilli?
non, parce que la clientèle n'est pas pareille. Non, je pense pas. Et puis maintenant, en fait, maintenant les Français. Enfin, entre guillemets, je veux dire pas tout le monde, mais la grosse majorité des gens qui pratiquent le tourisme équestre vont à l'étranger, vont dans des pays, vont soit dans les pays d'Asie centrale, soit au Maroc, ou dans les pays du Proche-Orient. Et en fait, ceux qui viennent en France, ce sont les Australiens, les Américains, tous ces pays-là. En fait, donc il y a eu en fait un peu un transfert on va dire d'endroits pour les gens ont un petit peu évolué, quoi, en fait. Alors, est-ce que ceux qui partent à l'étranger, enfin les Français qui partent à l'étranger, est-ce que c'est parce qu'ils ont fait le tour de l'Hexagone? C'est possible aussi. Je ne sais pas, mais en
Oh, on
fait,
n'a jamais fait complètement le tour,
ça c'est
hein.
clair.
Il faut plus
Oui,
d'une vie pour en faire le
tout
tour.
à fait,
Donc,
oui.
est-ce que ces gens s'équipent beaucoup ou est-ce qu'ils louent des chevaux tout équipés?
Ça se fait de moins en
Ça
moins,
se fait de
ça.
moins en moins.
Justement parce que j'ai l'impression que les gens ont de moins en moins le savoir-faire de se débrouiller tout seul. Les gens, maintenant, il faut tout leur mettre sous le nez, j'ai
Ça veut dire qu'il y a
l'impression.
des guides qui vont
Voilà.
prévoir des tournées de 8
Voilà,
ou 10
et
jours.
tout à fait, ils vendent
Des
du clé en
circuits,
main.
voilà, ils
Voilà.
vendent un voyage, quoi. Ils font l'agence de
Voilà. C'est du
voyage.
tourisme équestre, on va dire, oui.
Et ça, c'est encore bien développé.
Oui, encore, oui. Oui, tout à fait.
Alors, c'est cher de faire du tourisme équestre, par exemple, pour s'équiper, tiens, si on veut, de selle de Jean-Marie Soliverest.
Oh ben une selle, c'est dans les 2000 euros, enfin chez moi. Après, il y a beaucoup plus cher, si on tape chez d'autres fabricants. En fait, si on veut le catalogue complet, selle avec toute la bagagerie et tout ça, faut compter entre 3 500 et 4 000 euros, à peu près.
Oui, donc ça reste quand même
Ça reste
relativement
raisonnable,
abordable.
surtout, peut-être pas pour toutes les bourses, mais en fait, après, il faut voir ça dans le temps. Je veux dire, dans
Ah, on
20 ans,
s'équipe petit à petit.
aussi, et puis dans 20 ans, on aura le même équipement.
Oui, parce que ce sont des produits qui durent.
Tout à fait.
La Bastide du Vert, c'est là où vous travaillez aujourd'hui. Les
Oui.
clients viennent vous voir.
Pas beaucoup, mais j'aime bien. Enfin, ça me dérange pas qu'il n'y ait personne parce que je suis quand même un petit peu sauvage. Donc, je suis bien dans mon atelier à travailler à mon rythme, tranquille. Et puis, non, il n'y a pas grand monde. Après, comme je vous ai dit, je fais une tournée tous les ans. Donc, je vais voir les clients et à partir de là, je les mets autour du cheval et des clients aussi. Puisqu'il faut quand même qu'ils puissent rentrer dans la selle au niveau du fessier, qu'ils soient confortables. Il faut que la descente de jambes ait une bonne position par rapport aux portées trivières. Donc, je prends mesure du cheval et les proportions du client. Et donc après, à partir de ça, j'ai pas besoin qu'ils viennent. Après, ils peuvent venir par plaisir, il y a aucun problème, hein, je peux recevoir du monde. Mais je suis bien tout seul, tranquille, dans mon atelier.
J'ai dit la Bastide du Vert, on n'a pas dit où ça se trouve quand même. Alors, ceux qui sont les amateurs de peinture doivent savoir où c'est, parce qu'il y a eu un peintre ici très très célèbre, mais notamment ceux qui sont de Toulouse, s'ils vont à la mairie de Toulouse, ils vont voir les peintures d'un peintre extrêmement célèbre, hein, qui a des...
Oui, tout à fait, qui s'appelle Henri Martin.
Voilà, Henri Martin qui a décoré, entre autres, les salles de la mairie de Toulouse. Mmh, et donc, nous sommes dans le Lot, pas très très loin de Cahors.
À 20 km de Cahors, pas loin de la vallée du Lot, en fait. Pour revenir à ça, la maison d'Henri Martin est juste 200 mètres au-dessus, en fait. Elle n'est pas bien loin.
Elle n'est pas bien loin. Mais vous avez été plus loin que ça, parce que moi, je vous ai connu dans les montagnes sauvages, du côté de Bugarach.
À Bugarach, oui. Oui, c'est là où j'ai commencé mon activité. J'y suis resté jusqu'en 2010, en fait. Et c'est là où j'ai développé mon activité, où j'avais l'entreprise, j'avais mes employés, j'avais tout ça, jusqu'en 2010. Et donc après, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai commencé tout seul. Après, j'ai eu un employé, deux employés, trois, des apprentis, bon, enfin, tout ça. Donc c'est bien, on est quand même, entre guillemets, un petit peu fiers de ce qu'on a fait. Mais bon, au bout d'un moment, je commençais à saturer. C'est un engrenage, hein, en fait. On est pris dans un engrenage et puis les salons, j'arrêtais pas de faire des salons, j'étais tous les mois sur la route, je vendais en Allemagne, en Espagne, en Italie, en France, Belgique, enfin tous les pays limitrophes. Puis c'est vrai que ça commençait un petit peu à me peser et puis le voyage à cheval, j'en profitais pas beaucoup. En fait, à part les 3 ou 4 semaines d'été où l'entreprise était fermée, mais j'avais envie de plus.
Est-ce que tous les selliers sont cavaliers ?
Ah non, pas tous. Certains, oui, mais il y en a beaucoup qui ont mis le cul sur un cheval, on va dire.
Il vaut mieux être quand même un peu cavalier, parce que vous, quand vous faites une selle, vous savez...
Voilà, il faut quand même répondre à certaines exigences. Connaître les besoins, savoir la position du cavalier, je pense que c'est un minimum, oui. C'est comme si un garagiste n'avait pas son permis de conduire pour réparer une voiture.
Ouais. Vous avez fréquenté beaucoup les salons du cheval, il y en a encore beaucoup qui se font en France.
Depuis 2012, oui, non, enfin, je crois que le salon de Paris n'existe plus. Après, il doit rester le salon de Lyon, le salon d'Avignon. Il y a le salon d'Angers qui a commencé il y a 3-4 ans. Il paraît que c'est un beau petit salon. Enfin, moi, je n'y vais plus sur les salons depuis 2017, où j'ai arrêté mon dernier salon, en fait. Mais il y a encore un engouement pour les salons et tout ça, oui, c'est sûr.
Donc, ça veut dire qu'il reste encore un certain nombre de cavaliers qui sont de randonnée, puisque vous nous avez dit « je ne travaille que pour la randonnée ». Vous n'avez jamais fabriqué des selles pour les autres disciplines équestres ?
Non, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je ne connais pas leurs besoins. Le saut d'obstacle, il y a une certaine position, il y a une certaine demande. Je n'ai jamais pratiqué cette discipline, donc je saurais faire, techniquement, je saurais faire une selle d'obstacle. Mais si quelqu'un me demande, je saurais faire le basique, on va dire. Mais si quelqu'un me demande des besoins particuliers, par rapport à sa façon de monter, je ne saurais pas forcément l'adapter comme un sellier qui a déjà fait de l'obstacle ou des choses comme ça. Pareil pour le dressage.
Donc vous êtes limité, mais...
Oui, et puis d'abord parce que c'est une clientèle qui me plaît. Après, c'est pas le même monde. Hein. Certes, c'est toujours du cheval, mais c'est pas les mêmes chevaux. Puis c'est pas le même monde. Le monde de l'obstacle, le monde de la rando, le monde du dressage, c'est trois mondes complètement différents. Ce sont des personnes différentes. On joue pas dans la même cour, on va dire.
Ça veut dire peut-être que le cavalier randonneur est plus abordable que... cavalier,
dressage. Disons que moi je m'y sens mieux parce que c'est un peu mon monde, en fait. Cavalier dressage, je me sens un petit peu comme je me sens pas trop à ma place, en fait. Donc je saurais pas trop répondre à leurs besoins. Puis ça m'intéresse pas vraiment de travailler pour eux.
Alors on va rester
aussi.
N'en disons pas plus.
Après c'est des gens que je respecte tout à fait. Hein. C'est pas le problème. Hein. Mais c'est pas mon monde à moi. Et puis comme je veux pas, mais j'ai assez à faire avec la rando et le voyage. Hein.
On peut pas tout faire, exactement.
Donc il vaut mieux faire bien ce qu'on sait faire et laisser le reste aux autres.
Alors on va parler de la randonnée, et même de la randonnée à long cours, parce que on peut faire de la randonnée à la journée, on peut la faire sur une semaine, ce qui m'est arrivé souvent. Vous êtes rentré dans une autre dimension.
Dans une autre, oui.
C'est sur plusieurs mois. Avant que vous nous parliez de votre dernier voyage et puis de la randonnée en général, on écoute un peu de musique. Vous avez choisi Willie Nelson.
Tout à fait.
Qui c'est Willie Nelson ?
Oui. C'est un gars qui a un certain âge maintenant, qui a fêté ses 90 ans sur scène l'année
Oui,
dernière.
c'est ce qui s'appelle même un âge certain.
Voilà, tout à fait. Ben, c'est un peu la trempe des Johnny. Ben, du reste, à l'époque, il chantait beaucoup en duo avec Johnny Cash et tout ça. C'est un chanteur de country américain. J'aime bien le personnage parce qu'il s'est beaucoup investi dans la défense des Amérindiens. C'était un grand copain de. Enfin, ça doit être toujours un grand copain de Barack Obama. Donc j'aime bien le personnage.
Eh bien écoutez, on va faire mieux que de l'aimer, on va l'écouter. Qu'est-ce que vous avez choisi, Rider?
Rider in the Sky.
Ah, j'aime bien quand vous le dites, Rider in the Sky, donc de la country.
An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Along a ridge he rested as he went along his way. All at once a mighty herd of red-eyed cows he saw flying through the ragged brush and up the cloudy draw.
Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies, for he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-i-yay!
Faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught them yet. Cause they'll have to ride forever on that range up in the sky, on horses snorting fire. As they ride on, hear them cry.
As the riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our reins, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies.
C'était Willie Nelson, Rider in the Sky, le choix musical de mon invité, mais qui a la particularité de me recevoir chez lui aujourd'hui. Donc, il est mon invité, je suis aussi le sien, Jean-Marie Soliveres, le sellier de randonnée, spécialisé dans la randonnée, avec le poinçon JMS que l'on trouve sur beaucoup, beaucoup de selles aujourd'hui. Alors, vous êtes sellier cavalier, et vous avez pris le parti depuis quelque temps, depuis que vous le pouvez, vous avez pris le parti de faire de très grands voyages au long cours. Donc là, c'est le dernier, je crois, 4 mois.
Je suis parti 4 mois cet été, oui.
Alors, on va parler de ce voyage, parce que c'est quand même assez extra. D'abord, ça fait rêver ceux qui sont cavaliers, ceux qui sont randonneurs, parce que partir 4 mois... C'est quand même assez exceptionnel. Vous ne devez pas être très nombreux en France à pouvoir faire ce genre de choses.
Une petite cinquantaine, on va dire, peut-être.
Oui, voilà ce qui ne fait pas, ce qui ne fait pas beaucoup. Alors, pourquoi ces grands voyages d'abord? Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire des voyages de cette longueur, de cette durée?
Et encore, j'espère bien en faire des plus longs dans les années à venir.
Bon.
Pourquoi? Ben, c'est la liberté, c'est, j'allais dire, l'appel du large, si on veut. Hein. C'est le fait de vivre avec ses chevaux, qui est une expérience, en fait, c'est... On est avec ses chevaux, on fait un groupe. Surtout cette année, je l'ai remarqué, où j'étais tout seul. On fait vraiment un groupe avec ses chevaux. Et puis c'est le plaisir d'être avec eux, de découvrir la France, hein, puisque j'étais principalement en France cette année. De découvrir de nouvelles régions, de faire des rencontres, c'est tout ça, quoi, en fait.
Alors, comment vous avez préparé? Parce que vous êtes allé où cette année? Globalement, le trajet, c'était quoi?
Alors, en fait, c'était partir, je prépare rien dans mon voyage. Je fais un axe. Je savais pas où j'allais finir. J'ai dit, je monte au nord. Parce qu'en fait, le voyage que j'avais fait l'année dernière, j'étais parti d'Alsace, enfin à côté de Metz, puis j'étais descendu par l'Alsace, le Jura, en fait jusque les Alpes du Sud, et arrivé dans le sud de la France, avec la sécheresse qu'il y avait eu l'année dernière, ça avait été très compliqué de gérer l'herbe pour les chevaux, la nourriture pour les chevaux, la flotte, pour trouver de l'eau pour les chevaux, ça avait été vraiment très compliqué l'année dernière. Donc j'ai dit, cette année, j'ai pas envie d'être dans la même galère, je vais monter, j'avais dit cap au nord, donc je vais vers le nord.
Comme quoi, même le réchauffement climatique influe sur les randonnées
à cheval. Ah oui, tout à fait. Ça c'est clair, on le ressent pas mal, oui.
Donc cap au nord, c'était où ce nord?
Le nord, mais c'était vers le nord, en fait, c'était monter vers le nord. Je m'étais fixé d'abord le Morvan, et puis après j'ai dit, on verra bien.
On verra bien ce qui se passera quand
voilà.
Et alors, vous ne faites pas de tracé, vous ne sélectionnez pas des chemins, vous dites...
Si, je fais un tracé quand même, parce que, disons que quand on est à cheval, il faut éviter au maximum les routes, au moins les grandes routes. On se base d'abord sur les chemins, sur les sentiers, on va dire les sentiers, les chemins, les pistes équestres dans les régions où il y en a, ça peut être sympa. Après, ce sont ce que j'appelle les chemins blancs, c'est-à-dire les grands axes qui traversent nos campagnes sans qu'elles soient goudronnées. Mais le problème, c'est qu'il y en a de plus en plus qui sont goudronnées maintenant, des petites routes. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est s'il n'y a plus de chemin, ce sont les petites routes où il y a de la mousse qui pousse au milieu de la route. Ça, j'aime bien encore. Et après, ça devient un peu compliqué, quoi, en fait. On tombe sur des petites départementales ou peut-être des nationales. Donc ça, c'est... J'essaye de les éviter.
Alors, vous avez une carte, il faut savoir où vous allez. Vous ne dites pas, je pars le nez au vent.
Avant de partir, je regarde un peu par où je vais.
Vous êtes parti d'ici?
Je suis parti de la maison, oui. Je suis parti d'ici. Et après, je me suis dit, je vais traverser la Loire. Alors, les points les plus délicats, ce sont les passages de fleuves.
Ouais.
Et puis éventuellement une autoroute, encore pas trop, mais s'il y a une autoroute conjuguée avec un TGV derrière, un fleuve en plus, comme je prends là, ça s'est pas fait cette année, mais l'année dernière il a fallu traverser la vallée du Rhône. Donc la vallée du Rhône, c'est le Rhône, c'est le canal du Rhône, c'est le TGV, c'est la ligne de chemin de fer, c'est la Nationale 7 et c'est l'autoroute. Donc il faut traverser tout ça. Et il faut essayer de pas faire de zigzag, c'est-à-dire traverser l'autoroute, et après il faut faire 20 km pour trouver le bon passage pour passer le TGV, redescendre de 20 km pour passer le Rhône, de préférence sur un pont pas trop fréquenté, ce qui est pas forcément évident. Donc ça, c'est un peu des challenges, je veux dire, il faut quand même regarder ça avant de partir, un minimum, en fait.
Et où c'est que vous trouvez les cartes? Parce qu'il y a des cartes IGN.
Oui, mais c'est des cartes IGN.
Mais il en faut une foultitude de cartes.
Alors,
IGN.
Alors, je travaille au départ sur les cartes au 100 millième, donc qui sont quand même assez grandes. Et après, j'affine avec les cartes, ce qu'on appelle Iphigénie, donc c'est-à-dire les tracés numériques sur tablette.
On peut avoir sur tablette, téléphone ou autre.
Voilà.
Effectivement, donc, ils sont précis. Qui permettent aussi quelque chose de fabuleux. C'est qu'on sait exactement où on se trouve.
En plus, oui, on a le point GPS, si on veut, on n'est pas obligé de le mettre. Mais après, c'est vrai que c'est une facilité.
Ouais. Voilà, c'est prudent, parce que des fois, on croit qu'on n'est pas là où on est en réalité, et là, la galère commence.
Tout à fait, mais après, comme je fais un peu partie de l'ancienne génération, j'ai commencé à la carte, on n'avait pas le point GPS sur la carte qui nous suivait, donc c'est vrai qu'on est un peu plus apte à savoir se débrouiller si on est perdu, à faire le point et tout ça. Et en fait, j'ai quand même eu beaucoup de mal. Ça remonte maintenant à une petite dizaine d'années. En 2015, 2016, j'ai dû passer à la carte numérique, au numérique, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Ah, ça a pas été simple. Mais bon, j'ai vite compris quand même que quand on voyageait, ben, le fait de faire ça sur de longues distances, et ben, on a que les paires de fentes qui sont dédiées aux cartes. Donc, ça prend beaucoup de place. C'est quand même un budget qui n'est
Oui,
pas
c'est très cher, les
qui
cartes, elles
est
sont
tout
très
à fait,
chères.
oui. Donc on en achète au fur et à mesure, on en renvoie au fur et à mesure, donc on a vite un budget de 1000 euros sur 4-5 mois, pour rien que pour les cartes. Donc, tandis que là, avec l'abonnement Iphigénie qui doit être de 15 ou 16 euros, je crois, on a toute l'Europe, pour l'année, quoi.
Alors vous êtes parti avec ce qui m'avait frappé aussi, parce que vous avez mis beaucoup de photos sur les réseaux sociaux, Facebook pour pas le nommer, donc j'ai suivi ce parcours avec beaucoup d'intérêt. Vous êtes parti avec 3 chevaux.
Je suis parti cette année avec 3 chevaux. C'était
C'est
un peu
un peu ambitieux quand même.
Oui, non. En fait, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus facile que ce que je pensais. Ben déjà, ces 3 chevaux se connaissent, ils randonnent ensemble depuis 8 ans. Enfin, oui.
Donc c'est un groupe constitué,
C'est un groupe constitué.
c'est un troupeau.
Tout à fait. C'est un troupeau et moi, je fais partie du troupeau, donc on était 4. En fait. Et j'ai trouvé que c'était, ben finalement, après, ce sont des chevaux qui sont quand même bien dans leur tête, qui ont l'habitude de voyager, qui aiment ça, je pense, hein, ils me l'ont pas dit, mais ça se ressent, ça se voit dans leur attitude. Et donc, au début, j'avais donc mon cheval de bas, donc, que je maniais comme un cheval de bas normal, et l'autre, au début, les premiers kilomètres, en fait, je l'ai attaché au deuxième cheval de bas, sans savoir trop. Bon, j'avais fait quelques petits essais par ici avant de partir, quand même. Mais ça se passait bien. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis aperçu que quand ils avaient envie de faire leurs besoins, les miens s'arrêtent. Je les force pas à continuer à marcher. Ils font leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Donc le troisième cheval s'arrêtait. Et en fait, à chaque fois, ça cassait le. Parce que je mets toujours quand je tiens des chevaux comme ça, il y a toujours un fusible. C'est-à-dire que s'il y a un problème ou quoi, il faut que ça casse, il faut que le cheval se retrouve en liberté. Donc à chaque fois, le fusible cassé. Le fusible, en l'occurrence, c'est la fameuse ficelle bleue que tous les cavaliers connaissent.
Ah oui, ça ne ferait rien dans le cheval en
Tout à
France.
fait. Donc j'avais ces
La
fusibles.
ficelle de lieuse
Ouais,
de
de
foin,
balles,
voilà,
voilà.
de balle de foin
Donc
qu'on retrouve
j'en faisais
partout.
des petits
Ouais.
anneaux comme ça. Et puis voilà. Et donc finalement, ben, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais le laisser en liberté. Et puis en fait, il s'avérait que ben, il suivait très bien en
À
liberté.
quoi il servait le troisième? Parce que le premier, vous étiez dessus, le
Ouais.
deuxième, il portait les bagages,
Voilà.
tout le
Donc,
matériel,
alors,
et le troisième.
et le troisième, il portait du matériel. Alors, les chevaux ont voyagé très léger cette année. En fait, disons que d'habitude, un cheval de bas, comment, il a entre 70 et 80 kilos sur le dos avec le matériel. Là, ils avaient 50 kilos tous les deux, chacun, en fait, avec le
Ce
matériel.
qui pour eux
Donc,
n'est pas
ce qui
grand-chose.
n'est pas grand-chose pour eux, donc ça évite, ben déjà ils se fatiguent moins, ça
Donc
évite
ça
les
fait deux
blessures.
chevaux de bas.
Voilà, 2 chevaux de bas, tout
Alors
à
qu'est-ce que
fait.
vous avez pris dans tout ce matériel, puisque vous étiez tout seul?
Ben, ce que j'avais comme d'habitude, hein, la tente,
Donc
que j'ai pas encore pliée, j'attends qu'il fasse beau pour la plier.
ça veut dire que vous n'êtes jamais allé, contrairement à ce dont on parlait tout à l'heure, à l'hôtel, aux 3 étoiles, aux 4 étoiles,
Non,
toujours sous la tente.
toujours sur la tente. J'ai dû faire un gîte, je crois, en France. J'ai fait un seul gîte, ouais. Ouais. Après, j'ai toujours été sous la tente ou chez des amis ou logé chez des gens de rencontre ou voilà, j'ai toujours été sous la tente. Ouais.
Donc
Mais
comment on vit sous la tente?
ah, on vit bien,
On
moi
vit
j'ai.
bien? Le soir, quand on arrive, il faut monter le campement,
Ah
il faut
oui,
monter la
ça,
tente, il
quand on
faut.
arrive au bivouac, il faut prévoir. On a 3 heures pour s'installer, à peu près. Entre le temps où quand on arrive, qu'on a trouvé son lieu de bivouac. Bon, disons qu'à partir de 15h, moi je commence à chercher un lieu de bivouac. Ça ne veut pas dire qu'à 15h à 15h30, je suis arrêté, parce qu'il faut trouver des gens. À part vraiment quand on est dans des coins perdus qui permettent le bivouac sauvage, donc vraiment au fin fond d'une forêt ou en montagne, donc là je m'installe sans demander à personne. Mais autrement, je demande toujours. Alors en France, on a quand même la chance, ce qui facilite beaucoup les bivouacs, c'est que la chance est remplie de petites communes, et dans chaque commune, il y a un maire. Et donc les communes, plus elles sont petites, plus les gens se connaissent. Et plus c'est facile d'avoir des contacts, de trouver le maire ou le premier adjoint ou le deuxième adjoint au pire, si les mairies sont fermées, parce qu'en général, dans les petites communes, elles sont souvent fermées. Et donc, à partir du moment où on a eu affaire au chef, entre guillemets, il y a toujours, en général, à 90%, il y a toujours un terrain communal ou quelque chose pour se poser.
Et le ravitaillement des chevaux, comment vous les faisiez? Parce qu'ils travaillent toute la journée, ils ont marché. Il faut qu'ils mangent.
Donc il y a de l'herbe, donc cette année c'était pas un problème parce qu'il y avait de l'herbe en profusion.
Est-ce que l'herbe suffit?
Oui, ça suffit. Après je leur donne un petit peu de ration, un petit peu de grain.
Que vous emportez?
Oui, mais je leur donne une poignée. On va dire c'est le grain de l'amitié. En fait, que je prends parce que j'ai un cheval de bas, je peux me le permettre. Ceux qui voyagent sans cheval de bas ne l'ont pas en fait. Parce que ça fait vite lourd.
Et ça leur suffit, un cheval qui a marché toute la journée, oui, qui a marché la veille, qui va marcher le lendemain.
Parce qu'après, je fais maximum 6 heures de cheval par jour, au grand maximum. Donc, on est au pas.
Donc, 6 heures, vous faites combien de kilomètres?
On fait entre 20 et 25 kilomètres, à peu près, ouais. En fonction de la difficulté, en fonction du dénivelé, ça dépend, il y a plein de paramètres, en fait, qui rentrent en ligne de compte.
Oui, parce que là, vous ne pouvez pas vous permettre, avec des chevaux de bas, de partir au grand galop.
Non, sauf que le dernier, quand il est en liberté, souvent, il badait un peu à droite, à gauche, et il rattrape au galop. Ça ne le gênait pas trop. Donc, on peut galoper, si on veut, avec des chevaux de bas, même si ce n'est pas très confortable, peut-être, pour eux. Quoi, en fait.
Ça vous a jamais inquiété d'en avoir un qui était un peu un électron libre?
Au début, un peu, mais après, non. Après, non, au contraire. C'était marrant, parce que alors, des fois, quand je m'arrêtais... Pour demander un bivouac, et le troisième cheval était un petit peu loin. Je savais qu'il me suivait, de toute façon, il fait partie du troupeau, et de temps en temps, au bout d'un quart d'heure, des fois, je pensais, une petite anecdote, à un moment, je me suis retourné pour savoir où il était, donc je l'ai plus vu derrière, et je l'ai vu au loin, qui revenait, mais du côté opposé où j'étais venu. J'ai dit, tiens, il s'est trompé dans le route. Donc lui, pareil, il est derrière, il bat, il fait sa vie, il mange à droite, à gauche. Et là, j'ai pris un chemin à un moment, je suis parti sur la gauche, lui, il n'a pas dû faire attention, il est parti tout droit. Et puis au bout d'un moment, mais il ne nous a plus vus, et puis ben, quand il m'a entendu l'appeler, il est revenu, quoi, en fait.
Et vous avez dit qu'il fallait parfois prendre des routes, grandes ou petites. Ça vous dérange pas d'avoir un cheval en liberté?
Non, là, je l'attache quand même.
Ah oui?
Oui, non. Là, quand il y a beaucoup de circulation, ou quand je traverse des grandes villes, et encore après, je me suis vite aperçu que dès qu'il y avait du trafic, ou de la... En ville, c'est pas trop un problème, parce que les gens roulent doucement, enfin, ils devraient rouler doucement.
Oui, ils devraient.
Donc, en ville, c'est pas trop un problème, et c'est surtout les grands axes, là où je l'attache, en fait.
Ouais. Rien n'est fait aujourd'hui pour le voyage à cheval en France.
Il n'y a plus rien. On a tout perdu en l'espace de... Allez, en l'espace de 80 ans, on a tout perdu.
Donc on n'a plus de chemin, on n'a plus de... Bon, il y a beaucoup de chemins aussi qui sont fermés.
Les chemins,
ou qui se sont fermés, ou qui ont été rachetés et fermés par des propriétaires.
Oui, mais encore, c'est pas trop... Non, ça, c'est pas trop gênant. Après, comme il y a de plus en plus la randonnée en général a quand même pris beaucoup d'ampleur,
randonnée à pied.
La randonnée à pied, donc ça fait qu'il y a eu quand même pas mal de balisages, de chemins qui sont ouverts.
Oui, mais là où passe l'homme, le cheval.
En général, à part en montagne où il faut faire attention. Après, on peut être bloqué par des escaliers ou des espèces de tourniquets. Ça arrive, mais bon, à ce moment-là, on fait demi-tour ou alors les tourniquets. Souvent, quand on peut les déboîter et puis les remettre après. Bon, il y a toujours un peu des.
C'est le technicien qui parle.
Il y a toujours moyen de se débrouiller, en fait.
Ouais. On n'a pas dit d'abord comment s'appelaient vos chevaux et ensuite de quelle race ils étaient.
Oula. Alors, j'ai mes trois chevaux. Donc, mon cheval de selle. Ne rigolez pas, mais il s'appelle Pouf.
Ah oui.
Il avait déjà ce nom-là quand je l'ai acheté. Bon, je l'ai acheté Poulain, il avait 3 ans et demi ou 4 ans, je sais plus.
Vous montez toujours le même, et il n'y a jamais d'onde
perdue. Non, après les trois, enfin, en voyage, non, je monte toujours le même parce qu'ils ont des morphologies complètement différentes, donc chacun a son matériel, je veux dire. Et donc, il n'y en a qu'un seul qui a une selle de monte, on va dire, et les autres ont des bas. Donc, monter des chevaux de bas avec un bas, c'est pas tellement confortable, en fait. Après, ils peuvent très bien être montés. Je veux dire, les deux autres chevaux. Le troisième cheval, justement, que j'avais, c'était sa première année. Il a toujours fait les voyages en montée. C'était sa première année de cheval de bas. Et il s'en est super bien sorti. Il n'a jamais rien... pas une accroche, rien. Même en passant au milieu des arbres, dans les forêts, il a toujours bien géré son gabarit pour ça. vraiment chapeau, il m'a vraiment étonné. Ouais.
Alors Pouf, qu'est-ce que c'est comme race?
Alors c'est ce cheval, il a 11 ans maintenant, il commence à connaître bien son métier. C'est un croisé barbarabe, donc c'est un demi-trait, demi-trait léger on va dire.
Donc il peut vous porter, vous n'êtes pas un gros modèle.
Il n'y a pas de problème, il peut me porter. Il fait 1m62-63, donc il est un poil grand, il faut se baisser sous les branches. Mais bon, après, il est gentil, il est agile, ça va.
Bon pied,
il est respectueux des gens, du bivouac, ça va. Ouais. Oui, c'est un bon cheval de voyage.
Et les autres?
Alors après, j'ai Opal. Opal, c'est mon premier cheval de bas, on va dire, c'est celle que je tiens. C'est une jument, donc comme toutes les juments, elle est entière. Parce que l'autre Pouf est Hongre. En fait, les deux autres chevaux, ce sont des Hongres. Donc l'Hongre est quand même un caractère quand même plus tranquille, plus tranquille, on va dire. Opal, elle est vraiment, c'est une jument, mais elle est vraiment entière. Elle a son caractère, elle sait ce qu'elle veut. Quand elle veut pas, elle sait le faire comprendre. Ça a été un petit peu compliqué. Elle a 21 ans maintenant. Ça fait quand même 8 ans.
Oui, c'est quand même un cheval âgé.
Ça commence à être, je l'appelle la pépette. Mais c'est plus une pépette, maintenant ça devient une mémette. Elle commence à avoir, mais bon, elle a, disons qu'elle a pas fait grand chose dans sa vie avant.
Donc elle n'est pas fatiguée.
Elle est pas, je pense qu'elle n'est pas trop fatiguée. Puis c'est la plus vaillante du lot. Quand il faut, moi, cette année, j'ai pas fait trop de montagne, mais quand il faut vraiment faire de la montagne dans les Pyrénées ou les Alpes, chose que j'aime bien faire, quand il faut monter en haut d'un col ou un truc où il y a des chemins un peu costauds, elle y va. C'est la première à y aller. Et puis il faut personne devant. Hein, c'est un bulldozer. Hein, et donc elle est vraiment très volontaire. Donc au début c'était un petit peu compliqué avec elle parce que je pense qu'elle n'avait pas trop travaillé à l'époque parce que les gens n'arrivaient pas à en faire tirer ce qu'ils voulaient. Donc ça a été un petit peu compliqué avec elle au début, puis bon ben finalement maintenant on s'y est fait, puis elle a dû se dire ben finalement la maison est pas trop mauvaise. Donc voilà.
Et le troisième, l'électron libre alors?
Alors l'électron libre c'est Mocha, il a 16 ans. Lui, c'est un croisé. Alors, ces trois chevaux ont pas de papier. Hein, je veux dire, c'est pas des chevaux. Enfin, ce sont des d'origine inconnue, on va dire. Hein. Donc, lui, c'est un inconnu espagnol, croisé espagnol. Je l'avais acheté au Pays Basque. Pareil, c'est un cheval de rando. Il avait toujours fait de la petite rando en groupe, tout ça. Donc, c'est vraiment pas un cheval qui va passer devant. Il a aucune initiative. Donc, dès qu'il passe devant, il est bloqué. Il sait pas quoi faire. Donc ça lui va bien d'être derrière, de traîner, et puis voilà quoi. Et puis pareil, lui il est gentil, il n'y a aucun problème quoi, en fait.
C'est physique 6 heures pour les chevaux et pour le cavalier?
Ben ça dépend des dénivelants. En montagne ça peut être physique, quand on est sur le plat, bon non, c'est pas... Après c'est la répétition des jours, des kilomètres qui est physique, hein. Et le poids, c'est, disons que l'ennemi du cheval c'est le poids, je pense, plus que le nombre de kilomètres. Donc cette année, ils n'étaient pas très chargés. Après, ce qui est pour le cavalier le plus dur, c'est de monter le camp le soir. Parce que le cheval, une fois qu'on l'a décédé, lui, il est en vacances jusqu'au lendemain qu'on le scelle. Hein. Donc il a quand même toute sa nuit. Il a, on va dire, à partir de 5h du soir jusqu'à 9h le matin, il est tranquille, on ne l'embête pas. Hein, je veux dire,
le cavalier, c'est pas lui qui marche.
Ben, oui, mais bon, après, la moitié du temps, on est à pied quand même. Quand on fait des voyages comme ça, ouais. Au bout de deux heures et demie, on descend quand même de cheval pour se soulager un peu, pour marcher. Après, quand ça descend trop, on est à pied. Quand ça monte trop, non, le cheval, il est capable. Sauf si vraiment il y a des marches, des machins, où c'est un peu scabreux, donc là, on monte à pied. Hein. Mais après, bon, je dirais que 50% du temps, on est à pied quand même. Ouais.
Donc c'est aussi une randonnée pédestre,
ah, tout
finalement.
À fait. Ah oui, tout à fait, oui. De toute façon, c'était dans le cahier des charges des armées, en fait. Hein, les armées, ils faisaient 2 heures de cheval, ils marchaient 1 heure, ils refaisaient 2 heures de cheval, ils marchaient 1 heure. Donc, de ce côté-là, même en rando.
D'où la vieille expression, qui veut aller loin ménage sa monture,
tout
c'est
à fait,
ça.
Ouais.
La météo, ça a été comment?
C'était pluvieux cette année.
Par contre, on gère la pluie, parce que c'est très très emmerdant, la pluie. Ouais.
Non, moi, ça me gêne pas.
Non.
Ça me gêne pas à la mesure de après, quand on...
Quand tout est mouillé, les affaires...
Ouais, non, ça, c'est... Non, parce que... on se mouille soi-même. Après, les pluies d'été, c'est pas un problème. Parce qu'on a un t-shirt mouillé, il va vite sécher, on se met des affaires propres le matin, on repart. Après, il faut avoir du bon matos, justement, pour pas prendre l'eau. Donc, les chevaux de bas, moi, j'ai des caisses de bas qui sont étanches, donc ça, c'est pas un problème. Tout ce qu'il y a dedans reste étanche. Il peut y avoir que la tente qui est placée sur le dessus du cheval de bât qui va se mouiller. Et encore, on peut mettre une bâche, mais il y a toujours des infiltrations d'eau sous la bâche. Et bon, une tente, ça se monte de toute façon, ça se plie toujours mouillé parce qu'il y a toujours de la rosée et on la remonte mouillée. Mais après, bon, ça sèche. Ce sont quand même des tissus maintenant qui sont très, très techniques et qui sèchent très vite, même sous la pluie, hein, en fait. Donc, c'est pas un problème, ça. Après, ben, maintenant, ils font quand même de bons vêtements pour rester au sec. J'ai des surbottes, j'ai un surpantalon style kawaii un peu plus performant, on va dire. J'ai un grand manteau s'il fait froid. Autrement, après, je mets juste un petit imper basique. Et puis la pluie d'été, bon, si on est mouillé, je vous dis, c'est pas un problème. Hein, on change les t-shirts.
Oui, avec deux chevaux de bas, vous pouvez quand même vous permettre d'avoir du matériel. Alors que le cavalier seul avec.
C'est pour ça que j'ai pris un cheval de bât au bout de quelques années de voyage, parce que c'est quand même, ça demande beaucoup plus de travail au niveau de la préparation, mais ça apporte surtout un réel confort. Surtout qu'on n'a plus 20 ans, quoi.
Ça compte aussi.
Ça compte aussi, ouais.
Allez, on fait une deuxième pause musicale. Alors, celle-là, c'est moi qui l'ai choisie. On va écouter Cécile Mac-Laurin-Salvant, qui est une grande musicienne, une excellente chanteuse. Et c'est presque une rencontre de voyage à Sanson. Ça s'appelle Il m'a vu nu.
Un soir, je faisais une pleine eau pour tout maillot. J'avais la peau, nul ne pouvait me voir que le ciel noir. La lune soudain vint s'exhiber. J'allais lui dire ta bouche, bébé, quand j'entendis près de moi un cri d'émoi. Il y avait un homme sur un rocher passé haut. L'homme a fait ah, et moi dans l'eau, moi j'ai fait oh. Il m'a vu nue, toute nue, sans cache, truc, muche, soutien, machin. J'en ai rougi jusqu'au bassin. Il m'a vu nue, toute nue. Je me suis par respect humain voilé la face de mes deux mains. Mais je crois bien que par ce geste irréfléchi, j'ai négligé de voiler quelques petits chichis. Il m'a vu nue, toute nue, plus que nue. D'autant plus qu'il n'y a rien de cassé. Mais je me dis, depuis cette fatale nuit, je ne peux pas épouser un autre homme que lui. Il m'a vu nue, tellement nue, super nue.
Cécile Mac-Laurin-Salvant, il m'a vu nu, et c'est quelque chose qui aurait pu arriver à mon invité Jean-Marie Soliveres, entre voyageurs au long cours. Peut-être que en regardant dans certains ruisseaux discrètement, vous auriez pu voir quelques jeunes femmes en train de se baigner dans le plus simple appareil. Ça vous est peut-être déjà arrivé,
d'ailleurs. On va savoir.
Ah, voilà, on ne le saura pas, il ne veut pas nous le dire. Alors vous avez dit, moi j'aime travailler seul, tranquillement, oui. Je n'aime pas être... Et j'aime voyager seul aussi.
Pas forcément, non. Mais au moins un petit groupe, au moins deux, ouais. Oui. Bon, cette année, c'est trouvé que j'étais tout seul, donc je suis parti tout seul.
C'est pas dur, la solitude?
Non, moi, ça me gêne pas. Non, de toute façon, on n'est jamais seul. Oui, il faut déjà s'occuper des chevaux, il faut s'occuper des chemins, il faut, ben, si la météo est un peu capricieuse, il faut regarder comment on va la gérer aussi. C'est bien de monter le bivouac justement avant qu'il pleuve. Ben, dans la pluie, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, la pluie, c'est pas tellement la pluie qui est embêtante. Enfin, c'est pas la pluie. C'est de plier le bivouac sous la pluie le matin. Ça, c'est un peu. Ça me contrarie un peu. C'est pas agréable de tout plier quand il pleut. Mais après. C'est pour ça que j'aime bien me poser tôt, parce qu'en général, quand il fait chaud, les orages, ça arrive en fin d'après-midi, vers à partir de 5h, des fois plus tôt si on est en montagne. Donc c'est pour ça que j'aime bien me poser tôt. Et à partir du moment où la tente est montée, il peut tomber des cordes. Souvent, ça arrive où il pleut souvent la nuit. Ça me gêne pas. Au contraire, plus il faut que la pluie précède le cavalier pour faire pousser l'herbe.
Ah, c'est une bonne chose. Moi, je suis surpris que les chevaux ne se contentent que de l'herbe. Il faut quand même trouver des endroits où elle est suffisamment abondante. Mmh. Qu'est-ce qui se passerait si vous n'arrivez pas, un jour, deux jours, à trouver de quoi les nourrir?
Alors, ça m'est arrivé dans un autre voyage il y a quelques années en revenant du Portugal.
Parce que vous avez fait de l'international
aussi, oui. Donc dans les Cantabriques en Espagne, là ça avait été un petit peu compliqué, même si on avait quand même du grain, parce que le grain, vraiment, pour que ça leur suffise, il faudrait leur en donner des quantités quand même assez grandes. Donc les chevaux avaient quand même un peu perdu d'état. Bon, c'était pas dramatique, j'étais quand même assez content de moi, parce que les chevaux étaient quand même rentrés en bon état. Donc après, il faut gérer, ben, il faut faire un peu plus de pauses, et puis à partir du moment où c'est dur d'alimenter ses chevaux, ben, c'est dur pour nous aussi, parce que ça veut dire qu'on est dans un pays où il fait chaud, où il n'y a pas d'eau, enfin on trouve moins d'eau, donc il faut s'adapter aussi, donc c'est plus physique pour nous aussi, parce que la chaleur, je préfère le froid que la chaleur, c'est pas évident à gérer, quoi, la chaleur. Donc on s'arrête plus tôt et puis on fait plus de pauses, on essaye de trouver un peu des coins à l'ombre. Donc le cheval travaille moins aussi, quoi, en fait.
Vous avez fait de belles rencontres?
Oui.
Humaines,
oui, tout à fait. Oui,
des gens que vous ne connaissiez pas,
vous arrivez.
Et là, il y a quelque chose qui se passe.
Ah ben oui, il y a des choses magiques, en fait. Puis c'est ce que j'appelle la chance du voyageur. Des rencontres des fois insolites, des fois marrantes, des fois après ça m'arrive de rester en contact avec certaines personnes aussi qui me suivent sur Facebook et puis on se revoit pas forcément, on se verra peut-être dans quelques années, mais il reste des traces, il reste des choses, quoi. Parce que je pense que ces gens-là, je crois qu'on apporte du rêve quand on voyage à cheval, entre guillemets, en fait.
Je pense
on est un peu des porteurs de rêve, finalement.
C'est ce que vous voyez dans le regard des gens que vous avez croisés en disant c'est l'aventure. Aujourd'hui, c'est compliqué de vivre une aventure. Hein,
dans oui, après, monde. Aventure entre guillemets, parce qu'on reste quand même en Europe, c'est quand même. Mais oui, il y a des gens qui. Oui, ça interpelle quelque part, ouais. Des fois en moins bien, des fois en mal comme en bien, parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout intéressés, justement, qui se méfient, passez votre chemin, non, ça nous intéresse pas, qui font un pas en arrière quand on va sonner chez eux, des fois.
Les gitans, ils prennent pour un gitan, les voleurs de poules,
voilà, comme on disait autrefois. Je pense qu'ils le disent pas, mais ils doivent avoir ce réflexe-là, ouais. Mm-hmm. On a eu ça un petit peu en Tchéquie, quand j'ai traversé la Tchéquie, c'était un peu ça, parce que les seuls qui voyagent à cheval là-bas, ben c'est encore les gitans. Ou les bohémiens, comme ils appellent ça là-bas. Et c'est vrai que les gens avaient un petit réflexe de marche arrière, mais après, dès qu'on disait qu'on était français et tout, tout de suite, et puis bon, on avait quand même un équipement qui tenait la route et on essaye d'être quand même un petit peu présentable. Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire, de pas avoir l'air trop hirsute, d'être un peu présentable quand il faut aller voir les gens, quand il faut frapper aux mairies et tout ça. Bon, c'est un peu un minimum, quoi.
Quand on passe toute la journée à cheval, vous avez dit 6 heures, et puis après il y a le campement, mais 6 heures à cheval ou accompagné le cheval à pied, à quoi on pense?
À partir du début de l'après-midi, on regarde un peu la topographie, on regarde où on est, on regarde un peu les points d'eau sur la carte, les petits villages qu'il va y avoir, les bivouacs potentiels. Donc ça, déjà, ça prend une bonne partie de l'après-midi.
Et il n'y a jamais d'angoisse en disant, et si je trouve pas un endroit?
Ah ben, des fois, à 6 heures, on n'a pas trouvé.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben, on finit toujours par trouver. Il faut rester positif. On trouve toujours. de toute façon autour. Des fois, c'est des bivouacs un petit peu de...
Qu'est-ce que c'est un bon bivouac, d'ailleurs?
Un bon bivouac, c'est de l'herbe, c'est un terrain plat, au moins pour mettre la tente. Après, si les chevaux sont un petit peu... Faut pas non plus que ça soit trop en dévers. Mais c'est un terrain, disons, relativement plat, c'est de l'herbe, c'est de l'eau pas trop loin. Et puis voilà, avec ça, pour moi, c'est un bivouac 5 étoiles, quoi. Après, quand c'est clôturé, c'est un plus, ça évite de monter à la clôture portative.
Parce que vous avez une clôture portative
tout
en
à fait,
pour les chevaux.
Voilà,
donc ils ne sont pas attachés, et en plus ils doivent brouter, effectivement. Il faut qu'ils aient quand même de la surface.
Il faut qu'ils aient de la surface, oui.
Donc vous ne les entravez pas.
Après, je peux avoir des entraves, des fois, parce que des fois je les entrave juste pour les desceller ou pour les receller. Parce que des fois il n'y a pas de point d'attache. Si on nous donne un prêt juste avec des petits buissons tout autour et puis qu'il n'y a pas d'attache, et ben je les mets en tête bêche, en fait, en quinconce, tous les trois qui se regardent, en fait, comme ça, je les entrave, et puis là, ben, je peux... Et puis les chevaux, ils savent quand la journée est terminée. Du reste, pour revenir à la pépette, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, de toute façon, les chevaux, ils ont l'habitude. Ils savent très bien qu'à partir d'une certaine heure, je m'arrête, je demande aux gens, je regarde, et ça, ils savent qu'on va se poser. Et la pépette, deux, trois fois, on arrive au milieu d'un champ. Quand ça lui plaît, elle s'arrête, elle me regarde, elle est nie. Et elle me dit non, mais c'est là on s'arrête là.
Donc il y a quand même une communication dans l'équipe, ouais. Communication importante.
Oui, tout à fait, oui. Oui. Pour dire ça, je reviens une anecdote, en fait. Plusieurs fois, il y a des cavaliers qui m'accompagnent, enfin, ça peut arriver, et ces gens-là, ils n'arrivent pas à s'intégrer au groupe. Il y a du reste Moka, l'année dernière, enfin au dernier voyage, là, les cavaliers qui étaient avec nous, ils les chassaient. Il essayait qu'ils ne viennent pas trop près de nous. En fait, on est un groupe, il faut pas nous déranger. C'est marrant.
Ce qui est assez fascinant, c'est que quand on vous écoute, ça paraît d'une simplicité. Ben voilà, on sait, on prend ses affaires, on s'en va, et puis on avance.
Ouais, tout à fait.
Et on arrive quelque part.
Il faut pas trop se prendre la tête. Et puis après, parce que c'est peut-être, enfin, je maîtrise entre guillemets. Hein, je dirais pas ça s'il fallait partir avec un voilier, alors que je suis jamais monté dans un voilier, quoi. En fait, ou que j'ai fait juste du cabotinage comme ça. Donc non, moi, je pense que c'est quelque chose. Je connais les risques. Maîtriser, non, mais je sais ce qu'il en est, quoi, en fait.
Vous avez eu de grosses frayeurs dans les voyages?
Oui.
Des dangers
Le plus grand danger, déjà, c'est la route.
Oui, la route, les camions,
les tracteurs. Après, maintenant, on a un bon allié que j'aime pas trop, mais je trouve que c'est un bon allié parce qu'il fait ralentir un petit peu les voitures, surtout quand il y a des gamins à l'intérieur, c'est le téléphone, parce qu'ils se ralentissent pour prendre la photo.
Oui, il fallait y penser. Oui.
Ça, j'ai souvent remarqué que des gens qui n'ont rien à faire du cheval, mais ils ralentissent quand même pour prendre. C'est pas pour ça qu'ils vont laisser les 2 mètres normalement réglementaires. Il faut, quand on dépasse soit un vélo, soit un cheval, il faut laisser 2 mètres normalement. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, il n'y en a pas beaucoup qui ralentissent. Donc ça, c'est vrai que de ce côté-là, il y a encore une grosse éducation à faire au niveau des automobilistes. Ouais.
C'est un luxe de pouvoir partir autant de temps.
Maintenant que je suis à la retraite, non.
C'est une retraite active.
J'en fais encore une dizaine de selles par an, pas plus. Hein, je veux pas non plus. Mais de toute façon, il faut bouger. Hein, si c'est pour rester dans le canapé, c'est pas mon truc non plus. Hein, donc j'ai une, comment on peut dire. Il ne faut pas laisser rentrer le vieux.
Ah, c'est une belle formule. Voilà, pas laisser rentrer le vieux.
Voilà, il faut bouger constamment. Faire ce qu'on a envie, faire ce qu'on aime et se faire plaisir.
Eh bien, écoutez, c'est une règle fabuleuse qu'on va essayer de suivre. On termine toujours dans mes émissions en parlant de livres. Hein, je suis dans de l'écrit du livre. Mm-hmm. Vous avez choisi un livre qui s'appelle « Les voyages de Jupiter ».
Mmh, oui, tout à fait.
Qu'est-ce que c'est
Simon. Alors, avant, comme je le disais au début de l'interview, avant de voyager à cheval, j'ai un petit peu voyagé en moto. J'ai fait quelques beaux trucs aussi en moto, dont le cercle polaire en hiver. En fait, j'étais avec un sidecar. Et donc, les voyages de Jupiter, en fait, c'est un gars qui a fait le tour du monde en moto dans les années 70. À l'époque où on pouvait encore faire le tour du monde...
Sans se faire découper en morceaux dans certaines régions.
Tout à fait, oui. Et donc, ce livre m'a fait rêver, et je crois que ça a été un peu le point de départ de tout, quoi, finalement.
L'initiation au voyage.
Voilà, tout à fait.
Et moi, je vais vous parler de notre voyageur, que vous connaissez certainement au moins de nom, Sylvain Tesson, qui voyage beaucoup. Et chez Gallimard, il a publié un livre qui s'appelle La Panthère des Neiges. Moi, c'est un livre
que j'ai pas lu.
Que j'ai beaucoup aimé.
Je n'ai pas encore lu.
Il faut le lire. C'est un voyage en Tibet oriental, avec au centre du récit, il n'y a pas des chevaux, mais il y a un autre animal. Discret, qui fait tout pour être invisible, c'est la fameuse panthère des neiges. Donc c'est l'histoire d'un affût silencieux, et pendant ses marches, pendant ses affûts, on pense, on réfléchit, alors il n'était pas question de le tirer dessus, bien sûr, il est parti avec un photographe, ils ont fait un magnifique livre de photos, que je vous recommande aussi, mais dans ce livre, il y a la langue, le verbe de Sylvain Tesson, je vous disais à quoi on pense quand on est sur le cheval et qu'on avance, lui aussi vous dira à quoi il pense quand il attend essayer de voir cette fameuse panthère des neiges. C'est un superbe récit d'aventure qui fait autant rêver que méditer. Donc moi, je vous le conseille. Je rappelle le titre de votre livre, Les voyages de Jupiter de Ted Simon, et puis dans un autre style, peut-être un peu plus récent, Sylvain Tesson, La panthère des neiges chez Gallimard.
Et je rajouterai aussi des livres qui m'ont fait rêver, c'est les livres de Stéphane Bigot, qui est un grand voyageur à cheval et qui a parcouru aussi la planète à cheval.
Bon, toutes choses qui nous font rêver dans une société qui ne nous fait plus trop rêver maintenant, ne favorise pas par la façon dont elle fonctionne ce type de voyage. Mais vous l'avez dit, il faut chasser le vieux, il faut sortir.
Il faut éteindre la radio, la télé.
La télé, ne plus regarder les écrans, sauf quand c'est la carte de l'IGN, l'Iphigénie.
Et puis partir à pied, à cheval, en vélo, n'importe quoi. Il faut bouger.
C'est ce qu'on souhaite à nos auditeurs. Nous avez fait rêver. Merci Jean-Marie Soliveres.
Merci puis, Jacques Lavergne.
Bon futur voyage, parce qu'on a compris qu'il allait en avoir d'autres et encore plus long.
Oui, j'espère.
Et on en reparlera.
Tout à fait.
Merci de votre accueil.
Au revoir.
Merci à Jean-Marie Soliveres de m'avoir reçu. J'espère qu'il vous aura fait rêver et peut-être donné envie de prendre la route et de goûter aux grands espaces et surtout à la liberté. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne. Au montage, nous avions les autoroutes que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.